Bonjour frères et sœurs. Bon, l'évangile de Jean, si vous l'avez déjà lu, une chose qui est remarquable, c'est que Jésus rencontre plusieurs personnes. Et dans chacune de ces rencontres-là, il montre que finalement tous ont besoin de lui, peu importe leurs conditions, d'où ils viennent. On a vu que même un des plus grands docteurs de la loi, là, un chef religieux comme Nicodème, avait besoin d'être sauvé. Jésus lui dit, tu as besoin de naître de nouveau. Ça pouvait être surprenant. C'était surprenant pour lui. Et ça peut être surprenant pour les Juifs qui entendaient ça. Un autre exemple d'une rencontre que nous verrons aujourd'hui, c'est le cas typique d'une personne que, non pas que les Juifs auraient pensé qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée, mais les Juifs auraient pensé qu'elle ne peut pas être sauvée. Cette personne-là rassemble comme trois catégories de gens qui sont mal vus, qui étaient mal vus par les Juifs à l'époque. Donc, c'est une femme, pécheresse, samaritaine. C'est le genre de personne qu'un chef religieux juif n'aurait même pas passé une minute à s'entretenir avec. Même, habituellement, il fuyait ce genre de personnes-là comme la peste pour ne pas être souillé. Donc, lisons le passage aujourd'hui, Jean 4, les versets 1 à 42. Évangile de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de la Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit, « Mais comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé à boire, et je t'aurais donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit-elle, « mais tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Où aurais-tu donc trouvé cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? » et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif. » et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-elle, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Et toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc la cruche et s'en alla dans la ville Et il dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange! » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Non, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendrait ce témoignage. Elle rendait ce témoignage, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Ils furent encore plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. » Amen. Ouais, c'est tout un passage, hein? On va essayer de résumer ça en 30 minutes. Mais ici, j'aimerais qu'on le regarde sous l'angle, la perspective de la femme samaritaine qui découvre qui est Jésus. On découvre progressivement dans le texte de plus en plus des aspects de qui est cet homme-là, jusqu'à un portrait plus juste, plus complet à la fin. Donc, au départ, pour la femme, Jésus est un homme qui a soif, qui est fatigué, et c'est normal qu'il ait soif. Le texte dit qu'il vient d'entreprendre un long voyage en partant de la Judée pour se rendre jusqu'en Galilée, à pied. Il n'y avait pas de transport en commun à l'époque. À pied, en sandales. C'est normal qu'il soit fatigué. Puis quand il s'arrête pour se reposer au bord du puits, le texte dit que c'est la 6e heure. On commence à compter les heures dans ce système-là. 6 heures le matin. Donc, il est midi. Le soleil tapant, là. Il devait faire chaud. Là. C'est le moment de la journée où il fait le plus chaud. Jésus est fatigué. C'est normal, il a soif. C'est un petit détail qui passe ici, là, rapidement, mais c'est touchant de voir que Jésus, le Fils de Dieu qu'on adore, là, celui qui était dans la gloire du Père depuis toute l'éternité, a accepté de venir comme un être humain, vivre comme nous les limitations physiques là, de la vie sur Terre, la fatigue, la faim, la soif. Il a même connu la tristesse. Bon, c'est vraiment un homme humble qui a accepté de vivre une vie comme la nôtre. La femme, ce n'est pas ce qui l'étonne. Ce qui l'étonne de la part de Jésus, c'est que Jésus lui demande de l'eau. C'est étonnant pour elle parce que Jésus, il défie les normes. Il n'est pas supposé faire ça parce qu'il est juif. Puis même, elle lui répond, « Comment ça se fait que tu me demandes de l'eau à moi? Alors que toi, tu es juif, tu es samaritaine. On n'est comme pas supposé s'adresser la parole. Qu'est-ce qui se passe? » Elle avait posé plusieurs questions. Jean l'explique, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Même en général, on comprend la culture de l'époque que les Samaritains subissaient un grand mépris de la part des Juifs. Eux aussi, finalement, ils étaient contre les Juifs, là. Mais c'était d'abord les Juifs qui rejetaient les Samaritains et eux ne les aimaient pas en retour. Mais on comprend pourquoi quand on étudie l'histoire de l'Ancien Testament. Il y a eu une grande division en Israël assez tôt dans l'histoire du royaume d'Israël et Dieu les a jugés. Et une conséquence de ça, c'est que le royaume a été divisé en deux. La tribu de Juda au sud et les autres tribus au nord qu'on a appelées Israël du Nord. Et dans l'Israël du Nord, le roi Omri, un jour on lit ça dans 1 roi 16, a nommé la ville Samarie comme la capitale de la région du Nord. Jérusalem était la capitale de la région du Sud. Donc il se rendait en Samarie pour adorer et c'est devenu malheureusement un lieu de culte païen et d'idolâtrie, mais c'était la capitale du royaume du Nord. Et plus tard, toute la région du Nord a été surnommée la Samarie. Israël du Nord a continué à pécher, si bien que même si Dieu a envoyé des prophètes pour les avertir, Dieu un jour a jugé. Il a envoyé le peuple assyrien. Il est venu détruire toute la région du Nord. La plupart sont morts, les Israélites. Ils ont capturé, ils ont emmené en captivité beaucoup d'Israélites. Les seuls qu'ils ont laissés dans la région, c'était les plus pauvres pour qu'ils cultivent la terre. Le territoire ne sera pas laissé à l'abandon. Donc, quelques Israélites les plus pauvres sont restés sur le territoire. Et les Assyriens, pour qu'il y ait plus de monde, ils ont fait immigrer les étrangers. Donc, les Israélites se sont mêlés avec les étrangers par mariage. Donc, ça a produit des métis. Et ils ont mélangé leur culte aussi, leur foi. La foi, le culte à l'Éternel s'est mélangé avec le culte à toutes sortes d'autres dieux. Puis la superstition est entrée là-dedans, si bien que c'était plus vraiment un culte à l'Éternel selon la loi de l'Ancien Testament. Plus tard, la région du sud, Juda, elle aussi a été détruite. Ils ont été emmenés en captivité à Babylone. Mais Dieu a permis, comme ça avait été annoncé par les prophètes, qu'un jour, les Juifs de toutes les tribus puissent revenir, les Israélites puissent revenir sur le territoire. Donc, de retour d'exil, enfin, ils peuvent reconstruire le temple, mais là, ils trouvent les gens de la Samarie, les Samaritains, qui sont des descendants israélites, mais qui sont mélangés et qui adorent toutes sortes de dieux. Ils disent, non, on ne peut pas avoir de part avec vous, ils sont considérés comme des étrangers. À raison ou à tort, bien, ils avaient quand même raison. Mais il y a une grande distance depuis ce temps-là. Et rendu à l'époque de Jésus, la distance est très grande. Les Juifs considèrent les Samaritains vraiment comme souillés, et que s'ils entrent en amitié même avec un Samaritain, ils vont se souiller, ils vont devenir impurs. Mais pour voyager de la Judée à Galilée, ils devaient passer par la Samarie. Donc, il y avait toujours un malaise. Ils passaient chez les Samaritains, puis comme on le voit ici, ils n'avaient pas le choix parfois d'aller même aller acheter des vivres, mais ce n'est pas tous les Juifs qui voulaient faire ça. Ils pensaient même que de manger de la nourriture qui avait été manipulée par un Samaritain, ils étaient en train de se souiller, de devenir impurs eux-mêmes. Donc, c'était vraiment une grande distance. Ils considéraient avec rejet, là, avec mépris les Samaritains, même plus que des gens de d'autres nations, souvent. Mais là, en plus, ce qui est étonnant c'est pour la femme, c'est que non seulement elle est Samaritaine, mais en plus, elle est une femme. Et il y avait un mépris encore supplémentaire. Et particulièrement pour les femmes Samaritaines. Ça, on ne le voit pas dans le texte ici, mais quand on lit les récits historiques de l'époque, il y avait une croyance populaire, là, qui va même devenir une loi chez les Juifs dans la Mishnah, peu de temps après, là. Il y avait une croyance populaire qui disait que les femmes samaritaines, dès leur naissance, dès le berceau, elles avaient déjà leurs règles, les menstruations. C'était pour dire qu'elles étaient constamment en état d'impureté au niveau cérémoniel. Il ne fallait pas te toucher à une femme samaritaine, tu devenais impure. Pendant longtemps, tu devais faire un rite de... Je ne sais pas si c'est vrai, cette rumeur-là. Je ne penserais pas. Mais ce que la femme ne savait pas, c'est que Jésus n'avait aucune crainte de s'approcher d'elle. À plusieurs reprises, on voit Jésus s'approcher de gens qui, normalement, les gens pensaient qu'ils auraient été souillés, mais Jésus n'est jamais souillé par le contact de qui que ce soit. Au contraire, c'est lui qui purifie les autres à son contact. Il sanctifie. Donc, il n'y avait aucune crainte de s'approcher d'elle. C'est lui qui rend pur. Donc, déjà, la femme apprend quelque chose de cet homme-là. C'est un homme qui est bon, qui ne rentre pas dans les préjugés, dans les mauvais patterns là, de sexisme et de racisme, et qui s'adresse à elle de manière courtoise. Un homme bon. Elle va découvrir ensuite qu'il est plus que cela, il est un prophète. À partir du verset 10, Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » De l'eau vive, bien, on utilise ça rarement dans notre... Mais ça veut dire, on va utiliser cette expression-là souvent pour parler d'un ruisseau, d'un courant d'eau, d'une source d'eau. Mais c'est intéressant de voir que l'eau vive, le mot vive, c'est vraiment de la famille du mot vivant. C'est de l'eau vivante, littéralement. Elle comprend au sens littéral, tu vas me donner de l'eau vive, là, de l'eau fraîche qui sort d'une source d'eau. Mais c'est intéressant ici que Jésus est en train de parler en même temps d'une eau qui procure la vie, une eau vivifiante, l'eau de la vie. Mais bon, la femme, elle pense probablement simplement à l'eau physique normale. Là. Puis elle se demande comment il pourrait me donner de l'eau. Il n'y a rien pour puiser. Puis d'ailleurs, elle lui fait la remarque. Tu n'as pas de cruche, tu n'as pas de seau. Et le puits est profond. C'est intéressant, ce puits-là, le puits de Jacob, existe encore aujourd'hui. Puis il y a plusieurs sites historiques qui supposément existent encore aujourd'hui, puis on n'a pas de preuves. Mais pour le puits de Jacob, ça, il y a des preuves. Les preuves historiques continuent à travers les siècles. Là. C'est vraiment le puits qui était, avait été donné par Jacob à son fils Joseph à la sortie d'Égypte. Et c'est là que les os de Joseph ont été enterrés dans ce coin-là. Puis ce puits-là, aujourd'hui, il mesure 30 mètres de profond, 100 pieds. Donc, c'est sûr que la femme, elle se dit, comment tu vas faire pour aller chercher de l'eau? Puis elle ajoute, si ton eau est meilleure même que l'eau de ce puits de Jacob, là, que je m'apprête à puiser, est-ce que ça veut dire que tu es plus grand que Jacob? Es-tu plus grand que lui? Jacob, c'est le père de tous les Israélites. Là. Jacob, c'est celui que Dieu a renommé Israël. C'est le père des Samaritains, même s'ils sont mélangés. Le père des Juifs. Est-ce que Jésus prétend être plus grand que Jacob? Peut-être c'est sur un ton de moquerie même qu'elle lui pose la question. Mais Jésus lui répond gentiment, sans reproche. Il lui dit que contrairement à l'eau de ce puits-là, son eau, lui, va étancher la soif, mais définitivement. Quand tu bois de l'eau, tu continues d'avoir soif, c'est à répétition. Mais l'eau que Jésus donne, c'est une eau qui étanche la soif définitivement et même pour l'éternité. Donc, c'est une eau qui procure la vie éternelle. Là, la femme, elle est intéressée. « OK, donne-moi cette eau-là. J'aurai plus jamais soif. J'aurai plus besoin de venir au puits pour puiser. » Je pense qu'elle ne comprend pas encore nécessairement ce que Jésus lui dit, mais elle est intéressée. Mais Jésus est en train de lui dire, quand il parle de la soif qui va être étanchée, il ne parle pas de sa soif physique. Il est en train de parler de la soif réelle, qu'elle n'est peut-être pas consciente, mais la soif de pouvoir être dans la présence de Dieu, la soif spirituelle, la soif de se savoir pardonner, la soif de pouvoir être dans la présence glorieuse de Dieu. Parce que ça, c'est impossible à toute personne qui a péché. C'est ce que la table nous rappelle ce matin, là, le sacrifice que Jésus a dû subir pour que nous puissions être dans la présence de Dieu. Sans ce sacrifice-là, toute personne qui a péché, et c'est le cas de toute personne sur la terre, on ne peut pas être dans la présence de Dieu. Donc, il y a une soif qui est là, il y a un vide que même les non-croyants ressentent, même s'ils ne peuvent pas l'identifier. Jésus parle de cette soif-là. Tu l'as, mais ça peut être étanché. Et Jésus conduit la conversation justement pour dévoiler son péché. Il le fait gentiment, mais il lui dit, « Va chercher ton mari. Reviens avec ton mari. Je veux de l'eau pour qu'il mène à la vie éternelle. Tu n'auras plus jamais soif. Va chercher ton mari. » Là, il est forcé de lui avouer, « J'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Mais tu fais bien de dire ça. Tu as raison. Tu as déjà eu 5 maris. Et celui que tu as présentement, ça veut dire l'homme avec qui tu vis présentement, ce n'est pas ton mari. » Donc, il dévoile qu'elle a commis un péché à quelque part, là. Les 5 maris, est-ce que c'est parce qu'ils sont décédés les 5 fois, puis c'est tous des mariages en bonne et due forme? Elle a peut-être commis l'adultère. Ou en tout cas, peut-être qu'il y avait des divorces fréquemment à l'époque, mais c'est clairement pas selon la volonté de Dieu. Et là, elle vit en concubinage avec un homme sans être mariée. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui vivent ensemble sans être mariés. Ça... Si on demande à un Québécois sur la rue, est-ce que c'est correct? Ben, je pense que oui, culturellement, là, c'est correct. Puis même plusieurs chrétiens se posent la question. Est-ce qu'un homme et une femme qui vivent ensemble, automatiquement, ils sont pas comme unis aux yeux de Dieu? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un contrat qu'on signe pour se marier? Mais on voit ici une indication forte, mais je pense que c'est une preuve que c'est pas automatique que parce qu'un homme et une femme vivent ensemble qu'ils sont mariés. Jésus comprend que l'homme avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Donc, il y a une différence entre un couple marié et un couple qui vit en concubinage. S'ils ne se sont pas engagés l'un envers l'autre à rester unis pour la vie, ils n'ont pas fait ce pacte, ils ne sont pas mariés. Puis le fait de coucher avec une personne sans être marié, c'est un péché. Et le fait d'habiter ensemble, en continuité, Ben, c'est de vivre dans le péché. Donc, Jésus, en lançant cette simple phrase-là, dévoile son péché. Et elle, probablement que c'était sa réputation d'être une femme pécheresse. C'est pour ça qu'elle se déplace seule. C'était rare de voir une femme qui allait seule à un puits pour puiser de l'eau. D'habitude, elles allaient ensemble. Là, elle se trouve là, seule. J'ai l'impression que le reste de la population dans la ville, là, ils la connaissaient. Elle était considérée comme impure. Peut-être qu'elle n'avait pas le droit d'aller prier avec les autres au lieu du culte. Donc, elle était comme une femme, connue comme une femme pécheresse, je pense. Donc, elle est très surprise, puis elle demande, « Comment tu peux savoir ça? » Ce n'était pas écrit dans sa face, là, qu'elle avait eu 5 maris. Donc, elle dit, « OK, je vois que tu es un prophète. » Elle devait avoir le cœur qui battait. « Wow, un homme qui est devant moi, qui peut voir mon passé, vraiment une connaissance surnaturelle, il est forcément inspiré. C'est Dieu qui lui a révélé ça. » Donc, c'est la définition peut-être plus réduite là, d'un prophète, c'est qu'il sait des choses parce que ça lui a été révélé. Donc, elle sait que cet homme-là, c'est plus qu'un homme, là. C'est plus qu'un simple homme. Donc, sa connaissance augmente, elle comprend que ce n'est pas n'importe quel homme, c'est un prophète. Et là, elle va comprendre encore que ce n'est pas n'importe quel prophète non plus. À partir du verset 20 à 26, on va relire ça ensemble, s'il vous plaît, verset 20 à 26. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, à l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et la femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Ça me donne des frissons quand je dis ce verset-là. Donc, puisqu'il est prophète et qu'il est juif, elle vient de découvrir qu'il est prophète, mais là, elle aborde une question pointue. Une question qui divisait les religieux juifs et les religieux samaritains. Et il faisait en sorte qu'ils ne pouvaient pas s'entendre. C'était en quel lieu où il faut adorer Dieu. Et comme ils ne pouvaient pas se côtoyer, ils ne pouvaient pas aller ensemble adorer dans un même lieu. Donc, il y avait une chicane, là, un débat continuel. Puis, elle lui demande, est-ce qu'il faut adorer Dieu sur cette montagne? Là, elle parlait du mont Garizim. Où il faut aller à Jérusalem, comme les Juifs disent. Les prêtres samaritains pensaient adorer le même Dieu, mais leur Bible des Samaritains ne contenait que les 5 premiers livres. Ils considéraient seulement le Pentateuque, de Genèse jusqu'à Deutéronome. Dans tout le reste du récit, là, la prise de Canaan, la royauté, les juges, tous les prophètes qui sont venus, ils ne lisaient jamais ça, ils ne connaissaient pas. Tout ce qu'ils connaissaient, c'est les 5 premiers livres. Les autres, ils les considéraient comme non inspirés. Mais c'est dans le reste de l'Ancien Testament qu'on apprend où Dieu voulait être adoré. Dieu avait choisi Jérusalem. Eux, ils arrêtaient de lire à la fin de Deutéronome, où Dieu annonce, « Je vais choisir un lieu. » Donc là, ils scrutaient le Pentateuque pour essayer de déterminer c'était où. Et ils sont arrivés à la conclusion que c'était l'endroit où Abraham avait adoré Dieu, dans le coin de Gerizim. Puis ils ont dit, « C'est cette montagne-là. » C'était peut-être voulu, là, parce qu'il savait qu'il n'avait pas la permission d'aller à Jérusalem, mais il justifiait cela. Les Samaritains étaient venus à la compréhension que c'était à Gerizim, puis ils ont même construit un temple. Donc, il y avait comme 2 temples en compétition. Mais un jour, il a été détruit. À l'époque de Jésus, il restait seulement des ruines, mais il s'y rendait quand même pour aller offrir des sacrifices, puis prier, adorer Dieu. Jésus lui dit, « Bien, le Dieu que vous adorez, les Samaritains, en réalité, vous ne le connaissez pas. » Parce que non seulement ils consultaient seulement que les 5 premiers livres de la Bible, mais leur foi était mêlée à toutes sortes de superstitions, encore à l'époque de Jésus. Ça pouvait être insultant de se faire dire ça, mais Jésus lui dit, « Le Dieu que vous adorez, ce n'est pas le Dieu des Écritures. Donc, ce n'est pas le vrai Dieu. Donc, vous ne connaissez pas le vrai Dieu. Les Juifs le connaissent. Le problème avec les Juifs, c'est qu'ils ne lui obéissent pas. Ils sont rebelles. Mais le Dieu des Juifs, il est fondé sur toutes les Écritures, et c'est le vrai. C'est le vrai Dieu. C'est une question, d'ailleurs, qui revient souvent chez les chrétiens, en parenthèse, mais on peut se poser la question, mais tous les autres groupes religieux sur la terre là, qui disent adorer le même Dieu que nous, est-ce qu'ils sont nos frères? Là? Les catholiques, qui, pour la plupart, ne lisent jamais la Bible, les témoins de Jéhovah, les mormons, les musulmans, est-ce que ce sont nos frères parce qu'ils disent adorer le même Dieu? Mais selon ce que le Nouveau Testament nous enseigne, non, parce que ce n'est pas le Dieu tel que décrit dans la Bible. C'est une compréhension du Dieu qui est basée sur le raisonnement, les pensées humaines, qui est mélangée avec des croyances. Ce n'est pas le Dieu tel que Dieu a voulu être révélé dans la parole de Dieu. Donc, si ce n'est pas le Dieu que la Bible présente, ce n'est pas le même Dieu. Même s'il porte le même nom ou qu'il lui ressemble, ce n'est pas ce Dieu-là. C'est un Dieu que les gens adorent sans le connaître. Les Juifs connaissaient le vrai Dieu, mais c'est ça, ils étaient rebelles, ils avaient besoin d'être sauvés. Ce qui est étrange, c'est que un jour, les Juifs, un peu plus loin, dans Jean chapitre 8, ils vont rejeter Jésus en disant « Ah, toi, tu es un Samaritain. » Les Samaritains, eux autres, ils disent « Ah, toi, tu es un Juif. » C'est comme si Jésus est venu, puis parce qu'il était la lumière dans les ténèbres, il a été rejeté partout. Partout, il était considéré comme un étranger. Pourtant, il invitait les gens de tous à lui, à venir à lui, autant juifs que samaritains. Là, ici, Jésus révèle quelque chose à la femme qui est d'une importance haute. Et même les Juifs allaient devoir l'apprendre aussi. C'est que le temps venait où ce ne serait plus dans un lieu, ni sur le mont Gerizim, ni à Jérusalem, qu'on allait devoir se rendre pour adorer Dieu. On allait pouvoir adorer Dieu n'importe où, en esprit et en vérité. Et Jésus ajoute que c'est déjà le cas maintenant, parce qu'il était présent sur terre, et Jésus, comme il l'a dit un peu plus tôt, il est lui-même le nouveau temple. Donc, les gens, en venant à lui, pouvaient adorer Dieu. Mais il n'est pas resté sur la terre toujours, il est remonté, et plus tard, il a envoyé son Saint-Esprit pour que les vrais adorateurs puissent adorer Dieu en esprit et en vérité. Sans cet esprit-là qui vient et qui nous fait renaître, qui nous régénère, on ne peut plus adorer le vrai Dieu. On ne peut plus adorer Dieu en vérité. On pense peut-être faire des rites pour adorer Dieu, mais on n'est plus réellement en train d'adorer Dieu. Peu importe le lieu où on va, même si on se rend jusqu'au Vatican, on n'est pas plus en train d'adorer Dieu. Le seul moyen d'adorer Dieu, c'est que notre esprit soit régénéré et qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Les vrais adorateurs sont uniquement ceux qui croient en Jésus, ceux qui peuvent participer à la table avec nous, sont les vrais adorateurs, parce qu'ils sont rendus vivants spirituellement. On peut maintenant adorer Dieu n'importe où, même ce bâtiment d'église, même si on en prend soin, puis il est précieux pour nous, mais le bâtiment n'est pas plus saint qu'un centre d'achat ou que notre maison. Il est saint. Il est sanctifié par notre présence. Quand nous nous assemblons là, oh, là, c'est les saints qui s'assemblent en ce lieu, et Jésus est avec nous. C'est comme si le lieu est sanctifié par notre présence, mais le lieu lui-même, le bâtiment, il n'est pas plus saint qu'un autre. Et si on se réunit dans un parc, on va avoir le même devoir d'avoir un comportement saint dans un parc qu'on l'aurait ici dans la salle de culte. Mais heureusement, on comprend ces choses aujourd'hui, mais à l'époque, c'était difficile de saisir ce concept. Et là, la femme, elle rappelle, alors que Jésus lui révèle ces choses-là, qui sont extraordinaires, elle rappelle, « OK, je sais que le Messie attendu doit faire justement ce que tu es en train de faire là. Le Christ qu'on attend, là, il va venir et il va nous annoncer toutes ces choses. » Il y a comme une question sous-entendue là, dans son affirmation. « Est-ce que ça ne serait pas toi? » Ils attendaient le Messie qui allait justement venir déclarer des choses comme ça et faire une réforme. Là. Mais puisque les Samaritains n'utilisaient que les 5 premiers livres, le Messie qu'ils attendaient n'était pas complet. Mais ce qu'ils attendaient quand même à propos de lui, c'est vrai. Ce qu'ils attendaient, c'est justement que le Messie allait venir et il allait annoncer ces choses. Et donc, ils attendaient pas seulement un prophète, mais le prophète. Le prophète annoncé par Moïse. Dans le Pentateuque, Moïse a dit dans Deutéronome 18, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Donc, Moïse a annoncé qu'un jour, un prophète, là, comme Moïse, et Moïse, c'est une figure très marquante, là, c'est par lui que la loi a été donnée, que l'alliance a été conclue. Moïse annonce qu'il va y avoir un autre prophète qui va venir, comme lui, et que tous vont devoir l'écouter. S'ils ne l'écoutent pas, ils vont subir le jugement de Dieu. Tout va passer par lui. Donc, cette compréhension-là qu'ils avaient, les Samaritains, que le Messie va venir, là, ça va être le prophète, c'était bon. Bien sûr, il manque les autres aspects du Messie, mais tout à coup, elle se demande, est-ce que tu ne serais pas le prophète qu'on attend? Et Jésus lui fait l'honneur de lui dévoiler, parce qu'il ne l'a pas dit à tous. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Quelle joie, hein, qu'elle a éprouvée. Je ne sais pas si vous vous souvenez du jour que vous avez compris que Jésus est le Sauveur, et qu'il a touché votre cœur. Vous vous souvenez du jour de votre conversion, mais c'est une grande joie. Enfin, c'est un secret dévoilé. On sait qu'il nous sauve. Le poids de nos péchés est enlevé. Je ne sais pas tout ce qu'elle a compris ce jour-là, mais elle était très heureuse. Puis elle laisse sa cruche d'eau là, puis elle s'empresse d'aller parler de sa découverte à la ville. C'est une belle illustration. Hein? Maintenant qu'elle découvre la source d'eau vive, la source d'eau éternelle, de vie éternelle, elle laisse sa cruche d'eau. Cette cruche d'eau-là, ça devient très secondaire pour elle. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une illustration aussi qui nous est donnée. Donc, Jésus est un homme extraordinaire. Il est un prophète, mais plus que ça, il est le prophète, le Messie. Donc, il reste maintenant à préciser c'est quoi sa mission. Est-ce que c'est juste de venir apporter la volonté de Dieu pour une nouvelle ère? C'est plus que ça. Au moment où la femme termine son entretien avec Jésus puis qu'elle court à la ville pour dire, leur apporter la bonne nouvelle, les disciples de Jésus reviennent. Et là, ils surprennent la femme en train de parler avec leur maître. Le texte dit qu'ils sont sans mots. Ils n'osent même pas parler. Mais qu'est-ce qui se passe là? Jésus qui est en train de parler avec une femme, en plus une Samaritaine. Puis là, ils insistent plutôt, « OK, Jésus, on a de la nourriture maintenant, il faut que tu manges, il faut que tu reprennes des forces. » Jésus saisit l'occasion pour leur donner un bon enseignement. La nourriture que Jésus vient de se nourrir là en faisant cette œuvre, en parlant avec la Samaritaine, là, ça le satisfait encore plus que n'importe quelle nourriture sur la terre. Et ma nourriture, là, c'est de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça fait penser à Matthieu 4:4. Hein. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, si je mets en action, j'obéis au Seigneur, ce qu'il me demande, là, ça va me satisfaire plus encore que la nourriture de ce monde. C'est un enseignement qu'il laisse à nous tous, à tous ses disciples. Accomplir la volonté de Dieu, c'est ce qui satisfait réellement. Servir Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Bien, il y a plusieurs services que l'on fait, mais ça pointe tous dans la direction du mandat qu'il nous a confié, la mission qu'il nous a confiée. C'est d'édifier l'Église par l'évangélisation, par la formation de disciples, les conduire au baptême. Toutes nos actions, peu importe lesquelles on fait, ça doit contribuer à cela. Nous participons tous à cette même mission-là, qui est comparée souvent dans la Bible, et Jésus utilise la comparaison ici, à une moisson. On récolte les fruits. Donc, il y en a qui vont semer, il y en a plus tard qui vont moissonner. Mais tous participent au même travail de gagner des fruits pour le royaume de Dieu. D'édifier l'Église. Donc, nous, dans le concret, il y a des gens qu'on va envoyer parfois en mission ou qui vont évangéliser. D'autres vont accueillir ceux qui se sont convertis, vont les former. Et cette formation-là dure toute la vie. Donc, tout notre service que l'on fait pour l'Église, si ça sert à l'édification de l'Église, bien, on est en train de participer à ce mandat-là, puis on se réjouit ensemble des fruits. Puis Dieu, ce qui est étonnant, c'est qu'il nous fait la joie aussi de goûter à ces fruits-là, même pendant qu'on accomplit la mission. Les fruits, on ne les récolte pas seulement à la fin des temps, on en récolte déjà maintenant, puis on a la joie de voir des nouveaux frères, des nouvelles sœurs se joindre à l'Église, des gens grandir dans la foi, affermir leur foi. Donc, cette œuvre-là qui a commencé pendant le ministère de Jésus se perpétue par le travail de ses disciples. Mais ici, contre toute attente, même pendant le ministère de Jésus sur la terre, alors qu'il est venu premièrement pour les Juifs, il a déjà récolté des fruits parmi les Samaritains. Ça, c'est un message fort que Jésus envoyait. Donc, c'est une leçon que ses disciples n'ont sûrement pas oubliée. Il a récolté plusieurs fruits parmi les Samaritains qui étaient considérés comme à l'extérieur là, du peuple de Dieu pour eux. Est-ce que cette femme samaritaine a cru en Jésus pour être sauvée? Les avis sont partagés parce que le texte ne le spécifie pas. Mais selon moi, les indications sont assez fortes pour dire que oui, c'est sous-entendu. Elle a cru, puis par sa parole, en allant à la ville, puis en témoignant aux gens, plusieurs sont venus qu'à croire. Ensuite, ces gens-là sont venus voir Jésus, et encore plus qu'ils se sont mis à croire. Ils ont fini par dire, « OK, maintenant, on l'a entendu, Jésus, on ne croit plus simplement sur ta parole, on croit parce qu'on l'a entendu. » Et qu'est-ce qu'ils ont cru? Qu'il est réellement le sauveur du monde. Donc, ils disent, « Maintenant, on ne croit plus qu'il est le sauveur du monde simplement sur la base de ton témoignage, on le croit parce qu'on l'a constaté de nos propres yeux. » Pour moi, c'est une indication forte. Si elle-même annonçait qu'il est le sauveur du monde, c'est parce qu'elle est avec eux. Si tu crois que Jésus est le sauveur, qu'il est ton sauveur, tu es sauvé. Donc, ils sont allés voir Jésus, ils ont été convaincus et ils l'ont invité à rester. Puis Jésus, dans sa grande bonté, sa grâce, il est resté en territoire de Samarie, même si ça allait nuire à sa réputation. Il a passé 2 jours là avec eux. Il y a encore plus de Samaritains qui se sont convertis. Ensuite, il a repris sa route. Mais c'est une belle démonstration que Jésus faisait qu'il est pas seulement le sauveur des Juifs, la consolation d'Israël, il est le sauveur du monde. Et si les Samaritains ont été convertis, puis ils ont cru dans ce sauveur-là, qui est un Juif, donc c'était pas un des leurs, là. Ils ont vraiment cru que c'est lui le Messie, puis ils ont cru en lui. Donc c'était une belle indication pour les disciples de Jésus, aller annoncer partout. Et c'est ce qu'il va donner comme mandat, juste avant de remonter au ciel, Seigneur Jésus, dans Actes 1, 8. Il dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, c'est pour toute personne, même pour les Canadiens. Donc, ce que la Samaritaine a découvert sur Jésus, c'est un bon rappel pour nous. À ne pas oublier, Jésus est divin, mais il s'est humilié là, volontairement. Il est venu comme un homme qui a connu la fatigue, la faim, la soif. Mais tout ça, ça n'a jamais excusé un mauvais comportement. Même alors que ce jour-là, là, il était fatigué, il avait soif, et la femme argumentait avec lui, il est sans reproche. Il n'a jamais péché. Vraiment un modèle de l'agneau parfait, sans défaut. Il est un prophète. Donc là, on a raison de dire que Jésus est un prophète. Et d'autres vont le dire aussi, Jésus, c'est un prophète. Il connaît surnaturellement, parfaitement chacun de nous. Non seulement de notre passé, mais même notre avenir. Il a la toute connaissance, il est omniscient, parce qu'il est Dieu. Il nous connaît plus profondément même que nous-mêmes, mieux que nous-mêmes. Donc, il sait exactement ce qu'on a besoin. Il comprend nos difficultés. Il voit nos limitations. Mais il est plus qu'un prophète, il est le prophète. Le prophète qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Le Messie qui vient donner la volonté de Dieu pour cette nouvelle ère, l'ère du Nouveau Testament, conclure une nouvelle alliance avec le peuple de Dieu, une alliance éternelle. Et comment il le fait, ça? C'est en mourant pour nous. Donc, il est le sauveur du monde, pour que toute personne de toute nation qui croit en lui soit ajoutée dans ce peuple-là pour l'éternité et qu'ils aient comme un fleuve d'eau vive dans leur cœur qui coule éternellement. Des belles illustrations. Amen.